Géopolitique. Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée aux relations entre la Syrie et le Liban. Alors que l'une peine à trouver une sortie à la terrible guerre qui la ravage depuis 5 ans et que l'autre ne parvient pas à se défaire de l'impasse politique qui est la sienne, manifestée par la vacance prolongée de la présidence libanaise, l'inquiétude va croissant de voir la stabilité du Liban être menacée par la crise syrienne. Dans quelle mesure l'échec de la construction politique et la diffusion de la violence armée peuvent-ils entraîner Liban et Syrie dans une spirale de destruction commune? Comment comprendre ces craintes tandis qu'il s'agit d'entités étatiques distinctes et qu'il s'est passé près d'un siècle entre la fondation des États du Liban et de Syrie en 1920 et aujourd'hui? Regard et analyse avec nos invités par téléphone depuis Beyrouth, Karim Émile Bitar, professeur de relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, directeur de recherche à l'IRIS, co-directeur avec Clotilde de Fauchécourt de Le Cèdre et le Chêne, De Gaulle et le Liban, paru aux éditions Goethner. Bonjour.
Bonjour.
Et à Paris, en studio, avec moi, Elisabeth Picard, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste de la vie politique dans le monde arabe et notamment au Liban et en Syrie, auteur de plusieurs ouvrages, le dernier, Liban-Syrie, intimes étrangers, un siècle d'interactions sociopolitiques qui vient de paraître aux éditions Actes Sud dans la collection Sindbad. Bonjour.
Bonjour.
Et Ziad Majed, enseignant d'histoire contemporaine du monde arabe à l'Université américaine de Paris, auteur de Syrie, la révolution orpheline, aux éditions Actes Sud dans la collection Sindbad. Et je signale aussi la question syrienne, Ziad Majed, à laquelle vous avez participé, qui vient également de sortir. Bonjour.
Bonjour, je l'ai traduit, je ne l'ai pas écrit, évidemment.
Un commentaire pour commencer sur les élections municipales du week-end dernier au Liban et en particulier à Beyrouth. J'évoquais en introduction la crise politique chronique et l'absence de président depuis mai 2014, ce qui fait donc 2 ans. Les municipales qui se poursuivent jusqu'au 29 mai dans les différents gouvernorats du Liban sont le premier scrutin depuis 2010. La campagne à Beyrouth a vu émerger une liste de la société civile se situant en marge des partis politiques qui se partagent généralement les postes depuis l'indépendance du pays. Beyrouth Madinati, qui signifie en français Beyrouth est ma ville, le mouvement qui entendait s'appuyer sur le mécontentement des Libanais, a été victime finalement de ce contre quoi il se bat, les divisions de la classe politique, laquelle s'était unie pour l'occasion, permettant à la liste Les Beyrouthins de l'emporter. Karim Émile Bitar, tout faire pour que rien ne bouge, c'est ainsi que l'on pourrait résumer la situation?
C'est un peu ça, oui. Le système est extraordinairement verrouillé, sclérosé. Il y a toujours eu à travers l'histoire du Liban un véritable décalage entre la société et le système. Une société qui demeure déterminée à ne pas se laisser faire et un système qui lui dit « circuler, il n'y a rien à voir, les jeux sont faits, tout est pré-packagé, les élections sont déjà mises en boîte, il ne vous reste plus qu'à servir éventuellement de chambre d'enregistrement lorsque vous avez voix au chapitre ». Mais malheureusement, ce décalage entre la société et le système n'a jamais été aussi profond. Aujourd'hui, il atteint véritablement des sommets. Et ce décalage se traduit par, en quelque sorte, une double résilience, si vous voulez. Parce qu'on parle beaucoup de la résilience de la société civile libanaise, qui est toujours vibrante, toujours déterminée à se réapproprier l'espace public, qui ne veut pas se résigner. Mais cette résilience cache une autre résilience qui est celle du système libanais, du système politique, de cette caste politico-financière, si vous voulez, qui est au pouvoir depuis de très nombreuses années. Et ce système est lui aussi extraordinairement résilient, beaucoup plus solide qu'on ne le pense. On a pensé au moment de la crise des ordures que ce système pourrait subir les contre-coups de la colère populaire. Et on voit qu'il parvient toujours à se remettre en selle en se servant de son arme secrète, qui est l'arme du confessionnalisme, qui permet de mobiliser ses troupes contre un ennemi qui est très souvent un ennemi de l'intérieur. On essaie de remobiliser les imaginaires. C'est un peu ce qui s'est passé dans ces dernières élections, où on a agité le péril du risque que représenterait l'entrisme iranien au Liban. Et c'est ainsi qu'on a mobilisé un électorat populaire à Beyrouth, alors que dans les classes moyennes et les classes moyennes supérieures, on a vu une belle percée de cette liste de la société civile. Malheureusement, il y a encore beaucoup de chemin à faire avant que ces petites graines ne finissent par germer et par aboutir à un véritable changement politique dans ce pays.
Elisabeth Picard, Ziad Majed, un commentaire sur ce que vient de dire Karim Émile Bitar, Elisabeth Picard.
Oui, la résilience est un terme tout à fait exact et il est frappant de voir que depuis que les élections municipales ont repris au Liban, c'est-à-dire en 98, très tard après une interruption depuis 63, cette classe politique, surtout surtout dans les grandes villes, arrivent à prendre le contrôle des appareils municipaux, des budgets qui y sont liés, des grands projets immobiliers qui y sont liés, et effectivement, au prix d'alliances qui sont invraisemblables et incroyables, et on peut pas, même pas dire contre nature, parce qu'ils sont tous un peu semblables d'une certaine façon dans leurs appétits et dans leur capacité au retournement. À ce prix-là, il y a un maintien, une continuité qui est absolument étonnante, même dans la région tout entière du Proche-Orient.
Ziad Majali.
Oui, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Il faut juste signaler que au niveau des élections municipales, il y a toujours cette tradition de vouloir trouver des grandes alliances, parce que la question est une question surtout de clientélisme et de distribution de biens à certains électeurs par la plupart des forces politiques. Donc leurs conflits s'agissant de la question confessionnelle, s'agissant de leurs alliances dans la région, de comment ils voient le système libanais, il est suspendu quand il s'agit d'élections municipales dans les grandes villes, parce que c'est un enjeu surtout de clientélisme, surtout de rapport avec leurs électeurs. Et malgré cela, cette fois, ça a été différent, à mon avis, des élections municipales précédentes, parce que au niveau du taux de participation, ils n'ont pas pu mobiliser leurs troupes, toutes les partis politiques confondus, c'était vers 20% seulement.
Mais il y a une explication à cette faible participation.
Il y a plusieurs explications. Alors, premièrement, ce n'est pas la première fois qu'elle est faible. La deuxième, c'est que les gens au Liban votent non pas là où ils vivent, là où ils résident, là où ils payent les impôts, là où ils travaillent, mais là où ils sont inscrits dans les registres. Donc, la plupart des gens votent là où ils vont être enterrés, entre guillemets. Ce qui fait que beaucoup de Beyrouthains ne votent pas à Beyrouth, mais dans d'autres régions. Le système électoral est un système à majorité simple, donc ce n'est pas la représentation proportionnelle qui va pousser les gens à aller participer. Ceux qui pensent qu'ils vont gagner ne sont pas vraiment mobilisés, parce que de toute façon ils pensent qu'ils gagnent, et ceux qui considèrent qu'il n'y a aucune chance de percer restent à la maison également. Tandis que si on avait un système proportionnel, ça mobilise tous les camps, parce que chacun considère qu'il va être représenté selon le score qu'il peut faire. Donc il y a plusieurs raisons, et il y a aussi le dégoût de la classe politique qui pousse certains à aller voter contre l'alliance qui a regroupé toutes ces forces-là, mais qui pousse d'autres à rester chez eux. Le score que Beyrouth Madinati a fait était quand même extrêmement important. Ils ont eu plus de 30 000 votes, tandis que la liste de toutes les forces au pouvoir a fait dans les 40, 41 000 comme moyenne. Donc ce n'était pas tellement impossible de créer la surprise à Beyrouth.
Avec des moyens financiers évidemment très différents, hein, entre ces mouvements indépendants, ça c'est très clair. Karim Emil Bitar, qu'est-ce que nous dit tout de même Beyrouth Madinati et ce résultat? Les choses sont tout de même en train de bouger d'une certaine manière, et on parlera après ça de la crise présidentielle, pas de président au Liban depuis 2 ans.
En effet, ce que ces élections nous disent, c'est qu'il y a une société libanaise qui refuse de se résigner, qui refuse de devoir choisir entre la résignation et l'exil, qui continue d'imaginer un avenir meilleur, de se réapproprier un espace politique, de se réapproprier l'espace public aussi, parce que la ville a aussi également été livrée aux promoteurs immobiliers depuis une vingtaine d'années, et beaucoup de Libanais ne se retrouvent plus dans leur capitale. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Les élections reflètent également les failles structurelles au niveau de la loi électorale. Le véritable problème est que nous avons un système qui délibérément maintient en place des lois électorales archaïques, précisément afin de pérenniser un système clientéliste, un système qui favorise aussi bien les forces féodales dans les régions reculées que le pouvoir de l'argent dans la capitale libanaise. Il y a un véritable rouleau compresseur, et alors même que ce pouvoir était très largement discrédité par ces dernières années, il a quand même réussi à obtenir près de 60% des suffrages exprimés. Donc le succès de la liste de la société civile est bien sûr étonnant face à cette alliance hétéroclite qui a été constituée, mais ce qui est peut-être encore plus étonnant, c'est qu'après cette faillite politique, morale, intellectuelle, économique du système, les forces traditionnelles parviennent encore à mobiliser leurs troupes, parviennent encore à maintenir un minimum de réseaux capables d'assurer leur pérennisation. Donc il y a des motifs d'espérance dans ces élections, mais malheureusement le système a encore montré qu'il était lui aussi tout aussi solide et tout aussi résilient que cette société qui essaie depuis longtemps de s'y opposer. C'est un peu le combat du pot de fer contre le pot de terre au Liban, et malheureusement tous les efforts de réforme depuis une cinquantaine d'années se sont heurtés à ce même système. système qui est fondé sur le féodalisme, le confessionnalisme, le clientélisme, tout cela soudé par le pouvoir de l'argent et rendu encore plus complexe par les guerres par procuration irano-saoudiennes qui se déroulent dans toute la région et parfois assez violemment au Liban.
Que l'on abordera plutôt dans la deuxième partie de l'émission. Elisabeth Picard, un commentaire ?
Oui, il me semble que, encore une fois, en prenant du recul, on ne peut pas être vraiment optimiste et on ne peut pas trop penser que Beyrouth Madinati est le futur du renversement de ce régime extrêmement corrompu. Il y a eu, au cours des dernières décennies, des épisodes peut-être aussi, sinon plus dramatiques. Il y avait la guerre civile
de 75 à 90
pour les Libanais, au cours desquels la société s'est indignée, révoltée, par exemple avec les grandes manifestations de 1987. Or, le système, encore une fois, à la fois constitutionnellement et par le pouvoir de l'argent et des alliances intercommunautaires, est complètement verrouillé. Et mon pessimisme s'ajoute encore lorsque on voit que l'environnement international ne fait rien pour donner un coup de pouce ou pousser un changement qui pourrait advenir au Liban. Il me semble que le pourrissement de la situation libanaise satisfait à bien des égards les grandes puissances et les puissances régionales.
Alors, on a tout de même vu en mars dernier le Conseil de sécurité de l'ONU appeler les dirigeants libanais à accorder la priorité à la stabilité et aux intérêts nationaux du pays plutôt qu'à la politique partisane. Évidemment, ce sont des voix qui s'élèvent, mais sans grand écho. C'est cela qu'il faut entendre, Elisabeth Picard, de ce que vous venez de dire.
C'est juste le mot stabilité qui me fait tiquer. La stabilité, ça veut dire ne nous faites pas un nouveau lieu de conflit à régler, une intervention de la FINUL plus importante, etc. On met le couvercle sur cette situation. Elle convient, encore une fois, à beaucoup d'États de puissance moyenne et supérieure. Et la stabilité, c'est aussi interdire le changement, la protestation, ça Ziad pourra le dire mieux que moi.
Ziad Majel.
Pas mieux que vous, mais de toute façon, il est clair qu'il y a une volonté régionale comme internationale d'épargner le Liban un éclatement pour le moment. Il y a les scènes syriennes, irakiennes et le Yémen qui déjà absorbent toutes les énergies agressives peut-être de la région. Donc tant que la situation au Liban n'est pas alarmante et inquiétante pour la communauté internationale, la stabilité, même avec un pourrissement politique, même avec un système qui montre toutes les signes de faiblesse, mais qui ne change pas et qui peut toujours absorber les chocs et les digérer. Il n'y a pas une priorité internationale pour voir une démocratie s'établir au Liban aujourd'hui. Donc même si Beyrouth Madinati représente un certain espoir, elle a montré aux gens qu'il est possible de résister à la classe politique, mais il y a eu des expériences aussi en 98 par rapport à la question municipale, une grande campagne citoyenne, Baladiyati, qui a essayé de faire un travail similaire aussi au travail de Beyrouth Madinati, mais dans un autre contexte. Il y a eu beaucoup d'initiatives prises par la société civile libanaise, mais ce système-là, c'est un système qu'on appelle système consociatif, et assez verrouillé au niveau constitutionnel. Les poids lourds de la classe politique, même s'ils sont corrompus, même s'il y a de plus en plus un mépris de la part d'une grande partie de la population à leur égard, mais ils restent légitimes dans certains milieux de leur communauté. Ils arrivent à trouver des alliances. C'est vrai qu'on ne peut pas appeler contre nature parce qu'ils ont des caractéristiques qui se ressemblent. Chacun essaye d'imposer une hégémonie au niveau de sa communauté afin de montrer que tout conflit qui peut l'opposer à un autre poids lourd d'une autre communauté amène les deux communautés ensemble. Donc il y a plusieurs moyens pour se maintenir au pouvoir. Et d'ailleurs, depuis 75, avec aussi des ambitions d'une certaine gauche laïque du temps à changer le pouvoir, on a vu qu'en 89, il est revenu tel qu'il était, avec juste un changement au niveau des quotas confessionnels. Il s'est consolidé durant la période de la domination du régime syrien, et maintenant il est toujours là. Donc c'est un système quand même qui est fort malgré toutes ses lacunes et malgré le fait, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de président de République aujourd'hui, il n'y a pas eu d'élection parlementaire, le Parlement a auto-prolongé son mandat, faute de trouver un accord sur la loi électorale, et le gouvernement ne fonctionne pas très bien non plus. Il y a des disputes, il y a au niveau des services, comme la question des ordures, mais aussi l'électricité, l'eau, il y a énormément de problèmes de gestion quotidienne que le gouvernement n'arrive pas à gérer.
Géopolitique,
Marie-France Chatin.
Alors, justement, pour éclairer nos auditeurs, si on doit la résumer, la scène politique libanaise, ce sont deux coalitions multiconfessionnelles antagonistes, c'est évoqué depuis le début de cette émission, avec très clairement une alliance, l'alliance du 14 mars, qui est une alliance plutôt hostile au régime syrien, et l'autre bloc du 8 mars, mené par le Hezbollah, qui soutient le régime de Bachar el-Assad. Et on parlera peut-être plutôt dans la deuxième partie de l'émission, justement, de ces interdépendances et de ce que vous dites dans votre ouvrage, Elisabeth Picard, c'est que le conflit syrien se joue aussi au Liban. Karim Emil Bitar, pas de président depuis 2 ans au Liban. Ziad Majed évoquait toutes les conséquences que cela pouvait avoir. Est-ce que une sortie de l'impasse est visible, lisible quelque part ?
Il est à craindre que tant que la situation en Syrie ne se sera pas décantée, tant que les tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran perdureront, le Liban ne pourra pas voir de sortie de crise. Nous vivons en effet une situation assez paradoxale, une stabilité apparente, mais qui risque de porter en elle peut-être les germes de l'instabilité de demain, car cette stabilité d'aujourd'hui repose sur le fait de placer la poussière systématiquement sous le tapis, de repousser au calendre grec toutes les réformes importantes. Et cette stabilité repose aussi sur une occultation totale des questions sociales et économiques, à un moment où les thématiques identitaires reviennent en force, au moment où les lignes de faille sont en train de s'accentuer à travers la région entre les différentes communautés, notamment entre sunnites et chiites. Donc nous vivons dans une stabilité qui est peut-être annonciatrice d'orages à venir, car le système demeure vicié dans ses fondements. Le Liban n'a toujours pas réussi à s'orienter vers une définition de la citoyenneté et n'a toujours pas réussi à construire un État qui soit autre chose qu'une simple conjonction d'intérêts particuliers et catégoriels. Le Liban n'a jamais eu d'État qui soit le garant de l'intérêt général et qui puisse s'imposer face à toutes les communautés et empêcher ces immixtions étrangères de plus en plus flagrantes. L'armée syrienne a quitté le Liban il y a déjà une dizaine d'années, mais l'influence de la Syrie reste manifeste à travers son réseau d'alliances. Et aujourd'hui, on a toujours des interférences permanentes qui avaient été appelées le phénomène de clientélisation des communautés. Je crois que c'était Mme Picard elle-même et M. Korm qui avaient beaucoup parlé de cela. Cette clientélisation des communautés qui existait déjà au XIXe siècle avec les Français et les Britanniques est à nouveau présente à travers l'influence de l'Iran et de l'Arabie Saoudite sur la scène libanaise.
Elisabeth Picard, vous parliez de la communauté internationale. Le patriarche maronite était en France en début de semaine dernière et il a appelé la communauté internationale à déclarer la neutralité de son pays. Quelle lecture peut-on faire ?
Moi, j'en fais encore une fois une lecture historique. C'est un thème qui revient de décennie en décennie au moment de crise, avec un esprit d'ailleurs assez complexe, parce que qui réclame la neutralité la réclame pour se protéger contre un certain ennemi. Donc c'est une idée de la neutralité qui est toujours assez complexe. À chaque fois qu'on revient, c'était un peu votre question sur le 8 et le 14 mars et les deux camps, qu'on revient sur ce qui s'est passé, on ne voit aucune ligne vraiment claire dans ces choix politiques actuels. En 2005, lorsque se sont formés 8 et 14 mars, il y avait quand même une surprise et une difficulté à comprendre comment s'était passé ce revirement de certains camps et ces alliances avec la puissance haririenne et les héritiers de Rafik Hariri, de certains partis politiques chrétiens, et au contraire, le virage d'autres partis comme le camp du général Aoun vers le Hezbollah et l'autre camp. Cette alliance, elle était véritablement une alliance de pouvoir, de conquête, d'élection, et elle montrait par là sa fragilité. Aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'on est dans 8 et 14 mars. Quand on voit à quel point les partis chrétiens, à nouveau, dialoguent, essayent de trouver une solution, essayent de marchander, car c'est un mot-clé de la politique au Liban, pour savoir si on vous concède telle place politique, et en particulier la présidence de la République. On voit la volatilité et l'intérêt à très court terme de cette classe politique. Une seconde remarque, si vous me permettez, très rapide. La question socio-économique sur laquelle Émile Bitar a insisté est extrêmement importante. Sous tout ce jeu frivole et dangereux, se joue une véritable dégénérescence du Liban avec un changement démographique, un changement socio-économique à laquelle la classe politique n'a pas l'air consciente.
On développera dans la deuxième partie de l'émission Géopolitique. Nous retrouvons nos invités Karim Émile Bitard, Elisabeth Picard et Ziane Majed. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les relations entre la Syrie et le Liban. Nous retrouvons par téléphone depuis Beyrouth Karim Émile Bitard, professeur de relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, directeur de recherche à l'IRIS et co-directeur avec Clotilde Fauché-Court de Le Cèdre et le Chêne, De Gaulle et le Liban, paru aux éditions Goetner. En studio avec moi à Paris, Elisabeth Picard, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste de la vie politique dans le monde arabe, auteur de plusieurs ouvrages, le dernier Liban-Syrie, intimes étrangers, un siècle d'interactions sociopolitiques qui vient de paraître aux éditions Actes Sud dans la collection Sinbad, et Ziad Majed, enseignant d'histoire contemporaine du monde arabe à l'Université américaine de Paris, auteur de Syrie, la révolution orpheline, également aux éditions Actes Sud dans la collection Sinbad. Elisabeth Picard, je reprends ce que vous dites dans votre ouvrage, vous évoquez le système libanais. S'il perdure, c'est dans la conflictualité et non le consensus, on l'a déjà largement abordé dans la première partie de l'émission. Et vous dites, le conflit syrien ne déborde pas au Liban, il se joue au Liban. Explication de texte.
Je veux dire par là que pendant les premières années du conflit syrien et au moment où les mouvements armés sunnites et djihadistes se sont développés en Syrie, il y a eu, à juste raison à certains égards, une crainte qu'effectivement le conflit ne déborde dans certaines régions syriennes, en particulier le nord autour de Tripoli et les régions très déshéritées du Akkar et de Deniyeh. Mais en fait, l'actualité nous montre que ce qui se passe, c'est beaucoup plus un conflit qui se déroule au Liban en utilisant la symbolique, en utilisant l'imaginaire du conflit syrien et en le reproduisant à la libanaise sur le territoire libanais. Je veux dire par là que directement, on peut dire qu'il est très marginal que les parties armées et les partis en confrontation en Syrie viennent intervenir au Liban et se mêlent de politique libanaise. Au contraire, dans la période récente, et on le voit pour les municipales, il y a eu une attraction d'intervention.
Une étanchéité.
Oui, et puis en ce moment, il n'y a pas trop d'attentats au Liban, il y a une certaine sécurisation générale, etc. Ce qui se passe plutôt, c'est que l'imaginaire libanais porte tous les groupes politiques et confessionnels à vivre leur vie politique, leur confrontation, leur quête du pouvoir, leur recherche de sécurité à travers le prisme de l'influence de la crise syrienne et de ce que les différents acteurs syriens pourraient ou leur apporter ou détruire dans leur propre pays.
Ziad Majed.
Oui, quand vous avez évoqué le 14 et le 8 mars, ce qui reste du 14 et du 8 mars, c'est en fait ce qui se joue en Syrie. Parce que au niveau interlibanais, les nuances sont de moins en moins flagrantes. On voit pas pourquoi il y a entre le 14 et le 8 mars une rivalité politique. Ils s'entendent très bien sur plusieurs questions. Par contre, par rapport à la question syrienne, les choses changent et on voit le clivage qui s'installe de nouveau. Parce qu'il y a des calculs différents, parce que chacun espère qu'un camp le remporte afin de renforcer ses positions au sein du système libanais et dans la société libanaise. Ce que je souhaite ajouter par contre, c'est que ce n'est pas seulement le fait que les acteurs syriens ne viennent pas au Liban, mais que c'est plutôt un imaginaire ou des calculs libano-libanaises qui se projettent sur la scène syrienne, mais il faut aussi dire qu'il y a 10 000 combattants libanais du Hezbollah qui interviennent en Syrie, qui ont franchi la frontière libanaise en 2012 déjà, sous prétexte de défendre des Libanais qui vivent à l'intérieur de la Syrie. Après, c'était la question des sites sains chiites. Je parle évidemment du Hezbollah. Puis, ils ont parlé de la nécessité de soutenir le régime Assad contre toutes sortes de complots qu'ils ont évoqués. Donc, c'est l'alliance iranienne avec un groupe libanais, le Hezbollah, qui impose au Liban aujourd'hui une certaine approche de la politique régionale à travers laquelle ce parti envoie des Libanais contre l'avis de beaucoup d'autres Libanais pour se battre en Syrie et pour soutenir le régime Assad. Donc, il y a une intervention libanaise militaire dans le conflit syrien aujourd'hui, et ceux qui craignent des répercussions de cela, soit par l'alimentation d'une haine communautaire, mais également entre Libanais et Syriens, le Hezbollah a causé le déplacement de dizaines de milliers de Syriens, des territoires syriens du côté de la frontière libanaise vers le Liban. ils sont aujourd'hui autour de Al-Sahl et autres, ils sont à majorité originaires de la région de Kalamoun en Syrie où Hezbollah intervient. Donc il y a aussi une responsabilité libanaise dans ce sens-là, que ce soit au niveau du déplacement des réfugiés syriens, que ce soit au niveau de l'intervention pour sauver le régime Assad. Et on craint des répercussions, on craint que cela établisse aussi une haine qui ne va pas disparaître facilement entre les, disons, des catégories des deux peuples, surtout que ça prend une dimension confessionnelle et ça se joue parfois dans certaines régions libanaises au niveau des tensions, de la vie quotidienne, sans pour autant éclater ou menacer la stabilité actuelle, mais assez fragile, du pays.
Alors, responsabilité libanaise, moi j'ai cette question, Karim Emile Bitar, est-ce que finalement, cette intervention qu'évoquait à l'instant Ziad Majed du Hezbollah dans le conflit syrien, est-ce qu'elle serait possible si le Liban avait un président de la République? Je veux dire, est-ce que ce groupe ne profite pas de cette vacuité à la tête de l'État libanais pour intervenir?
Il en profite probablement un peu, mais la figure présidentielle au Liban est de toute façon suffisamment faible. Je crois que de toute façon, le Hezbollah aurait outrepassé quelques présidents qu'il ait pu y avoir, car il s'agit pour eux et pour l'axe iranien en général d'un enjeu qu'ils estiment existentiel. Il fallait sauver le soldat Bachar el-Assad. Et si ce régime syrien tient encore aujourd'hui, bien avant l'intervention de Poutine, c'était grâce précisément à cette intervention du Hezbollah qui n'a pas ménagé ses efforts. Et c'est assez ironique parce que le Liban avait longtemps été décrit comme le pays où on voyait une caisse de résonance des conflits régionaux. C'était la projection de conflits externes sur une situation interne qui était naturellement conflictuelle. Aujourd'hui, ce sont des milices libanaises et aussi des milices chiites irakiennes d'ailleurs, ce qui montre les enjeux transnationaux de plus en plus prégnants dans la région, qui sont essentiellement responsables du maintien au pouvoir de Bachar el-Assad. Donc je crois que quelle qu'ait été la situation politique libanaise, vacances présidentielles ou pas, nous sommes en présence surtout d'un affrontement irano-saoudien extrêmement vif un peu partout dans la région et qui se joue en grande partie en Syrie, et que tant que l'Iran est décidé à mettre toutes ses forces dans la bataille pour sauver le régime syrien, le Hezbollah continuera d'être présent sur ce territoire, quelle que soit la situation politique interne au Liban.
Alors, affrontement irano-saoudien, Elisabeth Picard, est-ce que finalement l'accord sur le nucléaire iranien change la donne pour le Liban avec renforcement là aussi du Hezbollah et renforcement également de par son intervention dans le conflit syrien? Est-ce que la balance est en train de bouger?
Oui, c'est une très bonne question et le processus s'est déroulé progressivement, de même que l'accord sur le nucléaire s'est fait par très petites étapes, lentes, etc. Les Saoudiens ont tout fait pour l'empêcher, pour le ralentir, et sur cette scène internationale, ils ont perdu. Les États-Unis sont passés outre et cet accord est signé. Or, ils comptent maintenant leurs alliés dans la région, les Saoudiens. Ils resserrent les rangs, ils essayent de faire face, et la situation libanaise, jusque-là, dans les années 2000, leur était relativement satisfaisante. Ils avaient d'abord le personnage de Rafik Hariri, qui était un binational et qui était très, très lié financièrement et même géopolitiquement à la vision saoudienne.
Assassiné en 2005.
Et ses successeurs, son fils Saad en particulier, qui a été premier ministre, continuaient cette politique de très grande proximité avec l'Arabie saoudite. Or, à partir du conflit syrien, les Saoudiens ne sont pas du tout satisfaits de la façon dont l'État libanais, si on peut parler d'un État libanais, résiste à l'indépendance du Hezbollah, à son intervention, à la montée en puissance des milices chiites. Et par conséquent, il considère qu'il n'a plus au Liban l'allié sunnite, chrétien, solide, qui faisait du Liban un de ses pôles pour maintenir la stabilité dans la région et entre autres pour faire face à la crise syrienne. Et on a vu récemment que les Saoudiens vont jusqu'à quelque part se distancier de ses dirigeants libanais, en particulier en rompant un accord sur le prêt militaire.
4 milliards de dollars qui étaient destinés à équiper l'armée libanaise, l'armée, 3 milliards supposés financer l'achat d'armes françaises.
En tout, c'est 4.
Pour le compte de Beyrouth.
C'est-à-dire, c'est 3 achats d'armes françaises et 1 million de l'autre côté. Mais les Saoudiens pensent que cet État libanais, et en particulier le Premier ministre sunnite du Liban, ne rend pas un retour de service que lui, par son financement, etc., donne.
Alors, pour résumer, l'Arabie saoudite est en train de lâcher le Liban?
Question.
Ziad Majed.
Je pense qu'on est dans des incertitudes. C'est-à-dire, oui, ils n'ont plus la même approche par rapport au Liban, par rapport à leur allié Hariri. Ils peut-être sont en train de se repositionner dans la région, dans le sens où ils cherchent de nouveaux alliés. Ils essayent de faire face à l'expansion iranienne qui a commencé à partir de 2003 avec la chute de Saddam Hussein et avant cela avec la chute des talibans. Donc paradoxalement, les Iraniens avaient profité de la chute de deux de leurs ennemis à l'est comme à l'ouest pour mener une politique agressive dans la région. Il y a la Syrie qui est un allié, le régime syrien, puis le Hezbollah libanais. Les Saoudiens étaient en une entente avec les Syriens jusqu'à 2004. Donc au Liban, ils trouvaient toujours les compromis entre un Hariri qui fait le travail économique et le régime syrien qui gère la politique étrangère du Liban, tout en coopérant avec les Saoudiens. Cela est fini en 2004, puis Hariri a été assassiné et depuis, Hariri fils était l'allié, mais là, il a des problèmes financiers en Arabie comme au Liban. Il y a un changement au niveau de la famille royale en Arabie et on dit que les nouveaux en place ne sont pas très satisfaits de la gestion de Hariri et de la question sunnite libanaise. Donc il y a véritablement un nouvel enjeu au niveau de la communauté sunnite. Et donc, c'était pour ça aussi l'importance des élections municipales dans les grandes villes, puisque les trois grandes villes au Liban sont à majorité sunnite au niveau de leur électorat, Beyrouth, Tripoli et Saïda. Donc, Hariri joue aussi un rôle important pour lui à travers ces élections-là. Mais c'est certainement le fait qu'au niveau de la communauté sunnite, pour les Saoudiens, il n'y a pas un acteur capable de freiner le Hezbollah, de faire un contrepoids à un parti hyper puissant, plus puissant même que l'État libanais fragile actuel, qui intervient en Syrie, qui impose une politique étrangère, qui est dans, au sein des institutions, qui avec ses alliés a souvent le tiers plus un, donc ce qu'on appelle le tiers de blocage, il a le droit de veto avec le système consociatif libanais, capable de bloquer les institutions et capable d'imposer des choix stratégiques. Tout cela fait que certainement la confrontation saoudo-iranienne se joue au Liban, mais se joue avec une guerre froide jusqu'à maintenant, puisque la véritable guerre se déroule en Syrie et maintenant au Yémen. Sans oublier l'Irak. Donc c'est une situation avec beaucoup d'incertitudes. On sent qu'il y a un mécontentement un peu de ce que Saad al-Hariri a fait récemment, y compris dans son courant, le courant du futur, qui s'élève soit en demandant plus de fermeté avec le Hezbollah, soit à l'inverse en demandant de repenser la scène libanaise et ses alliances.
Karim Bitin, vous souhaitez réagir à ce que viennent de dire Elisabeth Picard et Ziad Majed. Après ça, j'aimerais qu'on aborde la question de l'impact de la crise syrienne sur l'interdépendance économique entre la Syrie et le Liban. Karim Bitin.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Il y a d'un côté une irritation grandissante de l'Arabie Saoudite par rapport au rôle que joue le Hezbollah sur la scène libanaise et notamment le fait que le ministère des Affaires étrangères libanais soit contrôlé par un allié du Hezbollah. Et il y a de l'autre côté une désaffection également assez vive de l'Arabie Saoudite envers ses alliés sunnites libanais traditionnels. Et on commence à voir émerger de nouvelles figures sunnites libanaises, elles-mêmes proches de l'Arabie Saoudite, qui tiennent parfois un discours un peu plus radical que celui de Saad Hariri, avec l'idée que le Hezbollah ne cesse d'étaler ses muscles aussi bien sur la scène régionale qu'au Liban, et que la communauté sunnite doit à son tour réagir. Donc c'est un jeu extrêmement dangereux, d'autant plus que, comme vous le disiez, il y a une interpénétration croissante des enjeux syriens et libanais qu'on ne peut plus véritablement dissocier. Cette question se posera aussi si on commence à aborder l'avenir de la Syrie en termes de zones d'influence. Certains commencent à envisager des scénarios même de partition qui sont assez improbables à ce stade. Mais le simple fait que ces idées se posent, cela aura des répercussions sur la scène libanaise, car on peut difficilement toucher aux zones d'influence, aux équilibres démographiques dans un pays sans que cela n'affecte directement le deuxième pays qui est lié à la Syrie depuis une centaine d'années, pour le meilleur et pour le pire.
Alors, les conséquences sur le Liban du conflit syrien, ce sont 1,5 million de réfugiés syriens au Liban, Elisabeth Picard, lesquels réfugiés viennent s'ajouter aux réfugiés palestiniens, ce qui fait au total, je crois, plus de 2 millions de réfugiés. Oui. Pour comprendre un petit peu les répercussions, oui. Et vous dites dans votre ouvrage que les bénéfices économiques pour le Liban du conflit syrien sont réels.
Peut-être que le mot pour le Liban est malvenu pour certains Libanais.
Oui. C'est tout le paradoxe de comment fonctionne le Liban politiquement et économiquement. Il y a au Liban une classe commerciale et financière pour qui l'afflux de réfugiés a été une véritable aubaine. D'une part, il y a eu une espèce de transfert d'entreprises syriennes. On est maintenant à 5 années de guerre en Syrie. Et il y a des industriels, notamment d'Alep, parce que le conflit ne s'était pas encore répandu dans les deux premières années à Alep, et que Alep était une ville commerciale, industrielle, active. Bon nombre d'entre eux ont eu l'intelligence et la rapidité de transférer ou leurs entreprises ou leurs avoirs financiers, etc., au Liban. Il y a aussi le domaine de l'immobilier. Lorsqu'il y a une telle pression de population, les loyers peuvent monter, la construction immobilière pouvait se développer, etc. C'est évidemment à double tranchant. Le Liban, socio-économiquement, est en train d'être transformé par l'afflux de travailleurs syriens, de travailleurs étrangers, mais là, avec la crise syrienne, c'est véritablement une vague démographique et une transformation de sa population interne. Alors, on peut penser, on peut espérer, et beaucoup de Syriens le disent, que la fin des affrontements, au moins en Syrie, ferait repartir nombre de ces réfugiés. N'empêche que la composition démographique et la composition socio-économique, les niveaux de diplômes, de salaires, etc., qu'apporte cette population syrienne, souvent très démunie, transforme le Liban. En même temps que des dizaines de milliers de Libanais diplômés et brillants continuent de quitter leur pays.
Les Libanais, c'est 4 millions dans le pays et une diaspora qui dépasse les 10 millions. Voilà la proportion qui est particulièrement exceptionnelle, Ziad Majed.
Oui, on ne sait pas si ça dépasse les 10 millions parce qu'il y a au Liban beaucoup de chiffres et ils aiment souvent gonfler les chiffres. Oui. Mais c'est vrai que la diaspora libanaise a toujours été très active et que au Liban, il y a un véritable changement démographique avec l'arrivée de plus d'1,2 million de réfugiés syriens, avec également peut-être l'aspect confessionnel qui inquiète certains, puisque la majorité là de ces réfugiés sont musulmans sunnites et ça inquiète pas mal certaines communautés. Donc il y a beaucoup de questions qui sont évoquées, ça mène à un certain racisme envers ces réfugiés syriens. Donc c'est encore une fois une question très complexe et c'est difficile de la prendre à travers un seul angle, si c'est négatif ou positif. Si on prend l'aspect culturel par exemple, la rue Hamra à Beyrouth ou bien la rue Marm Khayel à Achrafieh ou d'autres quartiers connaissent aujourd'hui une explosion de la vie culturelle, grâce aussi à la présence d'artistes et de créateurs syriens. Donc, il y a beaucoup de questions liées à cette affaire de réfugiés syriens au Liban.
Karim Emil Bitar, en guise de conclusion.
Ce qui m'a frappé durant les deux derniers mois à Beyrouth, c'est qu'il semble y avoir des pressions de la communauté internationale, entre guillemets, ou du moins des donateurs, pour favoriser une intégration croissante économique des réfugiés syriens présents sur le territoire libanais. Et de notre côté, il y a ces appréhensions communautaires. C'est l'un des enjeux de la visite du patriarche maronite au président Hollande. Il souhaiterait lui dire que même en cas de retour de la paix en Syrie, cela ne suffira pas. Il faudra créer des incitatifs au retour pour que ces réfugiés puissent ne pas rester au Liban. C'est toujours la crainte des bouleversements démographiques. Mais donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation précaire. Certains économistes toutefois vous disent qu'il y a un effet multiplicateur qui peut être positif, c'est-à-dire que la présence des réfugiés syriens n'est pas aussi dramatique qu'on ne le pense parce qu'elle a également attiré de l'argent en provenance de la communauté internationale, de nombreuses ONG humanitaires qui ont aujourd'hui des centaines de salariés au Liban. Et tout compte fait, le PIB libanais ne perd pas autant qu'on aurait pu l'imaginer. On pensait qu'on perdrait 2%. Grâce à cet effet multiplicateur, apparemment, on a perdu 0,3-0,4%.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Nous vous avions, Karim Emil Bitar, par téléphone depuis Beyrouth. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, directeur de recherche à l'IRIS et co-directeur avec Clotilde Fouché-Court de Le Cèdre et le Chêne, De Gaulle et le Liban, paru aux éditions Goetner. Merci aussi Elisabeth Picard, directrice de recherche émérite au CNRS, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Liban, Syrie, intimes étrangers, un siècle d'interactions sociopolitiques, qui vient de paraître aux éditions l'exposition Actes Sud dans la collection Sinbad. Merci aussi à Ziad Majed, enseignant d'histoire contemporaine du monde arabe à l'Université américaine de Beyrouth, auteur de Syrie, la révolution orpheline, toujours aux Actes Sud dans la collection Sinbad. Et dans cette même collection, je signale donc la sortie toute récente de La question syrienne, un ouvrage écrit par Yassine Al-Haj Saleh, pardonnez-moi si je ne prononce pas correctement, dans sa version donc traduite en français. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacré aux enjeux mondiaux liés au champagne, un sujet qui révèle une géopolitique inattendue. À demain.